Chapitre 18. Diego. Hier soir, j'ai eu l'impression étrange de raconter mon histoire pour la première fois. Comme une confession. Une libération. Pourquoi ai-je accepté de me livrer ainsi? Peut-être parce que j'ai senti qu'aucune des personnes présentes ne me jugerait. Peut-être parce qu'elle était là et que je voulais qu'elle sache. Qu'elle comprenne les épreuves par lesquelles je suis passée. Peut-être aussi parce que les mots d'Hansen ont sonné comme des évidences. Astronaute n'est pas un métier, c'est un engagement physique et psychologique de chaque instant. Si je cache les difficultés rencontrées au cours de ma vie, je n'ai aucune chance d'être sélectionnée. Si au contraire je les livre simplement, en expliquant à quel point elles constituent aujourd'hui le fondement de mes faiblesses, mais aussi de mes plus grandes forces, ma sincérité sera appréciée et valorisée, j'en suis certain. D'autant que dans la catégorie para-astronaute, les chemins des candidats sont forcément loin d'être de longs fleuves tranquilles. Autant les assumer et en être fier. Ce matin, je me suis levée avec une lueur nouvelle dans le cœur. Comme une impulsion. Un souffle positif que je n'avais pas ressenti depuis des siècles. L'envie de ne plus me cacher. De dire au monde que, voilà, je suis comme ça, il va falloir faire avec. De me le dire à moi-même surtout. Alors là, tout de suite, je me sens bien dans le moment présent. Assis au cœur de ce paysage dont il est impossible de se lasser, je sens la chaleur du soleil pénétrer mes os. Et puis la poésie de l'instant laisse peu à peu place à la concentration. Je vais en avoir besoin, étant donné ce qu'Hansen est en train de nous expliquer concernant le déroulement de la journée. L'exercice que nous allons faire aujourd'hui est un cran au-dessus d'hier en matière de difficulté. Je jette un œil à Nabila, qui a déjà eu un peu de mal la veille. Sa jambe s'agite, signe d'inquiétude. Tête continue. L'objectif est d'évaluer vos capacités à travailler en équipe, à vous organiser, à mener une tâche complexe et à prendre des décisions ensemble. Comme je vous l'ai expliqué hier avant l'épreuve en piscine, lors du retour sur Terre, les conditions météorologiques, un problème de trajectoire lors de l'entrée dans l'atmosphère, tout peut empêcher la capsule de se poser à l'endroit prévu. Dans ces conditions, il est essentiel de s'être entraîné à différentes configurations. Hier, nous avons testé la configuration océan. Aujourd'hui, je vous propose le scénario Terre lointaine. Pour moi aussi, le stress commence à monter. J'ai mis ma prothèse la plus tout-terrain et j'ai déjà pratiqué toutes sortes d'activités en la portant, y compris de l'escalade et du canyoning. Mais je sais que lors de ce genre d'épreuve, je peux me faire plus facilement mal que les autres. Hansen reprend ses explications. Vous êtes donc un groupe d'astronautes qui vient de revenir sur Terre, et vous vous êtes posé dans un lieu qui vous est inconnu. Vous irez chercher tout le matériel présent dans le coffre du van et vous l'étalerez ici, par terre. Vous déciderez ensemble de ce qu'il vous faudra emporter pour atteindre un point situé tout en haut du volcan. Y installer un camp de base capable de vous abriter si vous deviez y passer la nuit. Allumer un feu pour faire bouillir de l'eau et lancer un SOS via une communication radio par satellite. Il marque une pause. Je regarde autour de moi. Les visages sont tendus. Le point que nous devons rejoindre est proche du sommet, soit plus de 3700 mètres. Or, nous sommes actuellement à 2300 mètres d'altitude. Quelques derniers détails. Tout d'abord, je serai à vos côtés, mais je n'interviendrai pas. Je me contenterai d'observer afin de vous débriefer ensuite. Je réponds d'avance à vos éventuelles craintes. Oui, j'ai plus de 70 ans, mais je suis très entraînée, ne vous en faites pas pour moi. Et Diego, le chemin est difficile par endroits, mais il est balisé et, à mon avis, complètement faisable pour un gaillard comme toi. Si tu as des difficultés, les autres t'aideront, c'est le principe d'une équipe. Je lui souris un peu rassuré, mais j'ai bien compris qu'il n'a pas terminé. Enfin, last but not least, il y aura une limite de temps. Vous devrez passer l'appel radio d'ici 6 heures. C'est la durée théorique d'autonomie de l'appareil que vous aurez en main. Au-delà, eh bien vous serez officiellement perdus et livrés à vous-même, chers astronautes. Des questions? Personne ne dit quoi que ce soit. Sans doute un peu hébété par la longue tirade qui vient de sceller notre sort pour cette journée. Alors, s'il n'y a pas de questions, Diego, je te donne la clé du coffre du van. Et 5, 4, 3, 2, 1, top départ. La tension est vite montée lorsqu'il a fallu décider de ce dont nous aurions besoin pour établir le camp qu'Hansen a appelé « de base ». Chacun y est allé de sa définition. Certains voulant emporter des sacs de couchage, sinon ça n'est pas un camp de base. D'autres ne souhaitant s'encombrer que du strict nécessaire, arguant que nous pourrions dormir avec 3 couvertures pour nous 6. Axel n'écoutait pas. Nabila n'arrêtait pas de modifier les listes pour ajouter ou enlever des éléments. Bérénice s'est mise à bouder, telle une enfant, lorsque Koum lui a demandé de le laisser réfléchir. Et c'est Anna et moi qui avons fini par prendre les décisions. Mais que de temps perdu, pour simplement entériner que nous abandonnerions ici les sacs de couchage, quelques outils, des boîtes vides et certaines rations alimentaires. Après 2h30 de marche, nous estimons être à un peu plus de la moitié du chemin. Koum s'occupe de nous guider, carte et boussole à la main, tandis que Nabila tient l'altimètre à ses côtés. L'ambiance est bonne, même si Axel a tendance à nous agacer prodigieusement avec ses remarques sur notre vitesse trop lente, ses récits d'exploits sportifs nombreux et ses conseils de grand randonneur. Le secret pour ne pas se fatiguer, c'est de synchroniser son souffle avec ses pas. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Maintenant, loin devant avec Bérénice, Axel n'entend pas Nabila qui peste.
S'il la ferme pas, je crois que je vais le fracasser. Tu vas voir que dans 2 minutes, il nous fait chanter en canon, ce con-là.
Nous progressons rapidement. Tout le monde semble être en forme. Et ma jambe ne me fait pas souffrir. Je m'estime chanceux, car cela fait longtemps que je n'ai plus de douleurs fantômes. Ces souffrances qui empoisonnent la vie de nombreux amputés. Moi, je n'ai plus que des sensations fantômes. L'impression que ma jambe me gratte, la perception d'un pied pourtant absent. La faute à mon cerveau qui croit toujours, lorsque je remue certains muscles du haut de mon corps, que le reste va suivre. Et qui me procure cette illusion précise et fascinante d'orteils s'agitant à l'intérieur d'une chaussure, en dépit de signaux visuels contraires. Pour le moment, tout va bien. Mais nous savons que le pire est à venir. Plus nous grimpons, plus respirer devient difficile. Lorsque nous dépasserons 3000 mètres d'altitude, il y aura 20% d'oxygène en moins, et certains d'entre nous pourraient être gagnés par le mal des montagnes. Et dans ce cas, maux de tête, étourdissement ou nausées seront au programme. Lorsque nous atteignons 3200 mètres, il ne reste plus 1h20 pour terminer l'épreuve, et Nabila montre des signes d'essoufflement. Nous commençons par faire une pause, suivie d'une deuxième et d'une troisième, et très vite, nous devons prendre une décision. Hansen ne perd pas une miette de nos échanges. Nous convenons que Nabila ne pourra pas nous suivre jusqu'au sommet, ou bien nous arriverons trop tard pour lancer l'appel radio. Axel propose de lui donner de l'eau et de quoi se nourrir, et de la laisser ensuite progresser à son rythme pour rejoindre le groupe ultérieurement. Nabila, assise par terre, acquiesce. Mais cette solution est très vite rejetée. Ici, nous sommes sur un chemin organisé. Mais dans une situation semblable à celle décrite par Hansen, jamais nous ne la laisserions seule. Et si elle faisait un malaise? Si elle tombait?
Allez-y, je vous dis. Je reste ici un moment, puis je vous rejoins. Ou bien je redescends par le même chemin, tranquillou.
Nous décidons finalement que quelqu'un restera avec Nabila. Koum se propose. Mais Bérénice s'y oppose. Elle dit qu'il n'y a pas de raison qu'il se sacrifie. Alors nous tirons à la courte paille, et ça tombe sur elle. Je surprends alors le regard de Nabila implorant silencieusement Anna de ne pas la laisser seule avec Bérénice, et je dois me mordre l'intérieur de la bouche pour ne pas rire. Nous arrivons au point de rendez-vous 30 minutes seulement avant la fin du décompte. Anna, Axel et moi montons le camp en un temps record. En essayant de nous éloigner des fumerolles, ces émanations souffraient à l'odeur d'œufs pourris qui nous rappelle ce fait un peu fou. Nous sommes au sommet d'un volcan. Koum, qui était scout, parvient à allumer un feu modeste mais parfaitement fonctionnel. Il reste moins de 3 minutes lorsque nous passons enfin l'appel radio. Hansen nous applaudit et nous sommes gagnés par l'euphorie. Les tensions de ces dernières heures s'envolent et nous rions comme des gosses en nous serrant dans les bras et en hurlant des « On l'a fait !» sautillant. Dit comme ça, ça peut paraître démesuré, mais à cet instant précis, je crois que nous avons vraiment l'impression d'avoir mis un pied sur la lune. La dernière fois que j'ai ressenti un tel accomplissement, c'était à la fin de mon deuxième marathon de Boston. Hansen prend le temps de nous débriefer, mais chacun de nous a déjà bien compris où il était resté trop en retrait, où il aurait dû intervenir. Nabila et Bérénice nous rejoignent avec près d'une heure de retard. C'est beaucoup, et la fatigue creuse les traits de Nabila. Mais elles aussi l'ont fait. Bérénice est prévenante, attentive à notre amie marseillaise. Et dans l'ensemble, le lien s'est resserré entre nous tous. Spontanément, Axel lance une salve d'applaudissements en direction des deux femmes. Hansen propose de trinquer et Nabila lance
« C'est vrai que je me ferais bien un pastaga, là, tout de suite !»
Je demande ce qu'est un pastaga. On m'explique, mais Ted dit qu'il a encore mieux. Il sort une bouteille de champagne et des flûtes en plastique, et nous écarquillons les yeux. C'est encore Nabila qui intervient.
Alors il nous fait porter tout un tas de trucs qui servent à rien, mais lui, pépouze, il se cale une bouteille de champ dans le sac à dos, quoi.
Nous trinquons à notre succès du jour et à ceux à venir. Et puis l'euphorie s'estompe peu à peu. Il est 17h, la lumière décline, mais la beauté demeure. Assis au sommet de l'île et de l'Espagne, serrés les uns contre les autres, car il ne doit pas y faire plus de 6 degrés, nous ouvrons grand les yeux. Il n'y a aucun nuage à l'horizon. La vue est totalement dégagée. À nos pieds, la nature spectaculaire et sauvage de Tenerife se pare de douceur. Les pentes du volcan se teintent de lueurs jaunes. La palette s'enrichit d'ombre à mesure que le soleil se couche. Au loin, nous apercevons les îles de Gran Canaria, la Palma et la Gomera. Et tout autour, la mer, le bleu à l'infini. Nous restons là quelques instants encore, dans la splendeur du crépuscule. Et puis, il est temps de redescendre. Cette fois, nous prenons le téléphérique, les muscles endoloris, mais des couleurs et des images plein la tête.